France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
On vend des médicaments, on les achète pas trop cher et on les revend un peu plus pour pouvoir survivre parce qu'ici à Cuba on galère, si tu ne vends pas, tu ne manges pas.
Après le Covid, tout est parti en vrille. Avant les choses n'étaient pas comme ça. Avant le Covid, il n'y avait pas de file d'attente. Tout a empiré quand ils ont fait le changement de monnaie.
Parmi les choses que je vois avec optimisme, c'est qu'au milieu de tant de crises et de pénuries de produits et de services, les gens restent très humains. Cuba est un endroit dans le monde qui accorde beaucoup d'importance aux valeurs humaines.
Cuba n'aura eu que quelques jours de répit. Joe Biden l'avait à peine retiré de la liste noire des États soutenant le terrorisme que son successeur à la Maison-Blanche, Donald Trump, l'y inscrivait de nouveau. Et sitôt nommé, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, farouche opposant du gouvernement communiste de Cuba, annonçait un durcissement des sanctions. Rien de surprenant pour l'île sous embargo américain depuis 1962, mais le coup est rude car le pays est au bord de l'effondrement. Le tourisme n'a pas réussi à se redresser après la crise sanitaire liée au Covid-19. Les réformes économiques engagées, réformes monétaires et ouverture de certains secteurs au privé ont entraîné une flambée de l'inflation. Le pays n'est autosuffisant ni sur le plan alimentaire ni sur le plan énergétique. Les habitants subissent donc pénurie et coupures de courant à répétition. Quant aux manifestations pour dénoncer ces conditions de vie, elles sont violemment réprimées. Comment les Cubains font-ils face au quotidien ? 3 mois dans Cuba en crise, c'est un reportage signé Maëlys Kider. Bonjour Maëlys.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes en direct de La Havane. Vous avez parcouru l'île de Cuba pour documenter cette crise. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ?
En effet, j'ai parcouru Cuba. Je parcours Cuba depuis maintenant 3 mois. Et je pense que le plus symptomatique de cette crise actuelle que traverse le pays, ce sont les coupures de courant. Parce qu'à La Havane, elles sont quotidiennes. En janvier, il y en avait assez peu dans la capitale, mais à partir de février, elles se sont vraiment multipliées. Et jusqu'à pas plus tard qu'hier soir, il y avait une coupure de courant jusqu'à 7 heures dans la soirée. Et à La Havane, c'est encore assez doux, si je puis dire, puisque dans tout le reste du pays, c'est-à-dire petites villes, campagnes, etc., il y a 2 heures d'électricité par jour environ, donc le matin de 8 à 10 heures et en général de 16 heures ou alors de 16h à 18h. Et ça a un impact qui est non négligeable pour les Cubains, puisqu'ils doivent cuisiner au charbon, puisqu'ils doivent brancher des générateurs qui fonctionnent à l'essence. Donc ça crée des bruits de moteur et des odeurs très désagréables. Donc imaginez un peu dîner dans ce cadre-là. Et ça dure depuis des années. Bien sûr, les coupures de courant, elles ont des conséquences en termes de réfrigération des aliments, de vie sociale. Il y a eu quelques événements annulés ces derniers temps à La Havane à cause de ça. Et en termes de qualité de vie, c'est très problématique. Ensuite, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe, c'est bien sûr comparer les prix au salaire, c'est-à-dire un salaire moyen de 4600 pesos. Beaucoup de salaires s'élèvent en réalité à 3000 pesos. Et une bouteille d'huile, pour donner un exemple, coûte 900 pesos. Donc les prix sont extrêmement élevés et les salaires sont vraiment ridicules par rapport au prix. Ce qui est assez surprenant, c'est que les Cubains arrivent à trouver des solutions pour acheter de la nourriture. Il ne faut pas imaginer un pays où les gens meurent de faim. Ce n'est pas le cas. Les gens se nourrissent et les gens se nourrissent relativement correctement. Et dans le reportage qui va suivre, on va entendre des revendeurs, donc des gens qui inventent. Ils utilisent beaucoup ce mot ici. On invente, il faut inventer, qui inventent des solutions pour pouvoir se nourrir correctement. Autre chose, à La Havane, il y a beaucoup de poubelles, des montagnes et des montagnes de poubelles un peu partout, même dans les quartiers de classe moyenne, on va dire. Il y a un gros problème de ramassage d'ordures et donc le gouvernement dit que c'est à cause du manque d'essence. Je voudrais préciser qu'au milieu de tout ça, il ne faut pas s'imaginer non plus un pays où les gens sont complètement abattus. La vie est très, très, très dure. Mais au quotidien, les gens parlent des difficultés, mais se plaignent assez peu, en fin de compte. Et les Cubains sont très patients, c'est le cas de le dire, je pense. Et il faut imaginer un pays où, au milieu de tant de crises, il y a quand même une vie culturelle qui est assez impressionnante. C'est très paradoxal et c'est difficilement explicable, puisque un pays où il n'y a pas, quasiment pas d'électricité, et c'est aussi un pays où il y a des festivals, le festival de jazz, le festival de salsa, avec bien sûr de la lumière, une organisation assez carrée. Et quand on n'est pas ici, c'est dur d'imaginer un pays qui est autant en crise et qui arrive quand même à avoir une vie culturelle pareille et très accessible par ailleurs, parce que la culture est très peu chère. Donc j'ai peut-être tort, mais je crois que ce pays a encore des perspectives, et il a su se relever d'une crise assez terrible dans les années 90, et je pense qu'il saura se relever de celle-ci, en tout cas je l'espère.
Notre invitée pour ce magazine consacré à Cuba est la politologue Jeannette Abel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Je vous propose de partir tout de suite pour Cuba grâce à ce reportage de Maëlys Kider.
Si vous marchez dans les rues de la Havane, au milieu des bâtiments en ruine et d'autres qui risque de s'effondrer, vous verrez de longues files d'attente devant la banque, la boulangerie, la boucherie. Dans le centre, ce jeudi, un camion décharge des centaines de cartons d'œufs. Ça paraît banal, mais à Cuba, les œufs sont un luxe. Il est 10h du matin. Environ 150 personnes se postent autour du camion et du magasin. Pour déterminer l'ordre de passage des clients, la police demande les cartes d'identité. Il faut s'imposer. Les plus chanceux repartiront avec leur carton tard dans la soirée. Maria, une Havanaise de 41 ans, attend depuis déjà 3 heures.
Je suis ici depuis 7 heures du matin pour acheter des œufs. Ils te vendent un carton de 30. Mon salaire, c'est le double de la valeur du carton d'œufs. Je gagne à peu près 3000 pesos. Et le carton d'œufs, ils le vendent 5,95 $, donc 1500 pesos. La moitié de mon salaire part dans un carton d'œufs. Mais je dois donner à manger à mes enfants. Les œufs sont un aliment important. Et en plus, quand il y a du poulet, les files d'attente deviennent excessivement longues. C'est compliqué. Je travaille et je sors pour acheter de la nourriture. Ou je vais acheter de la nourriture et je ne travaille pas. Et ça, tous les jours, pour trouver des solutions, par-ci, par-là. Je suis sortie du travail à l'aube. Je suis gardienne de nuit. Je n'ai pas dormi. Je suis venue du travail directement ici. J'ai laissé un petit déjeuner à mes enfants. Ils ont de la chance d'avoir un petit déjeuner. Il y en a qui vont à l'école sans petit déjeuner. Les miens ont de la chance, grâce à leur père qui vit dans un autre pays. S'il n'était pas hors de Cuba, je ne m'en sortirais pas.
Quel âge a ton fils ?
J'ai deux enfants, un de 8 ans et l'autre de 15 ans qui est diabétique. Si je ne fais pas la queue pour de la nourriture, il va être en mauvaise santé, car il doit manger 6 fois dans la journée, alors qu'ici, il y a de quoi manger une fois. Et ma fille doit petit déjeuner, goûter et dîner.
Combien de queues tu fais chaque semaine ?
Il y a 7 jours dans la semaine. Je fais 7 queues. Parfois 14. S'il y a un arrivage de poulet au marché et du riz, il faut faire la queue. Je gagne 3000 pesos. S'il me reste 1200 pesos, c'est l'équivalent de 2,5 kg de riz.
Donc en 2 jours, tu peux dépenser tout ton salaire.
Non, en un jour. J'achète les œufs, le riz et mon salaire est fini.
Et depuis quand c'est comme ça ?
Ça fait 3 ou 4 ans. Après le Covid, tout est parti en vrille. Avant, les choses n'étaient pas comme ça.
Avant le Covid, il n'y avait pas autant de queues ?
Non, avant le Covid, il n'y avait pas de file d'attente. Tout a empiré quand ils ont fait le changement de monnaie. Là, l'inflation est arrivée. Les revendeurs, les prix ont augmenté.
Même si les salaires ont été augmentés, les prix, c'est de la folie. C'est de la folie.
Tu crois que le retour de Trump aux États-Unis va faire empirer la situation ici?
Ah mais, je pense que l'île va se dessécher.
En 2020, l'économie cubaine s'effondre suite à une série d'événements. Le Covid contraint l'État à fermer les frontières. Les revenus du tourisme, deuxième source de devises de l'île, tombent à zéro. En 2025, ils peinent à retrouver leur ancienne dynamique. En 2019, plus de 4 millions de personnes ont visité l'île et en 2024, ils étaient à peine 2 millions. Pendant son premier mandat, Donald Trump met en place 243 nouvelles mesures d'embargo. Des entreprises pétrolières et des banques écopent d'amendes pour avoir travaillé avec Cuba. En 2018, la Société Générale est condamnée à payer 1 milliard de dollars pour avoir effectué des transactions qui impliquaient Cuba. Les envois d'argent des Cubains émigrés à leur famille, troisième source de devises, sont limités. L'embargo, en place depuis les années 60, touche tous les produits, la nourriture, les médicaments, les matières premières. L'économiste Emma Reverleny nous explique.
Si quelqu'un doit faire un virement en Inde pour payer un médicament dont Cuba a besoin, c'est très difficile pour la Banque nationale de Cuba de payer l'Inde, car il n'y a aucune grande banque d'Europe, d'Amérique latine ou des États-Unis qui accepte de faire ce virement, puisqu'elle risque d'être sanctionnée. Donc toutes ne peuvent pas faire ces transactions. Cela affecte clairement Cuba. Un bateau qui vient avec des marchandises à Cuba ne peut plus aller aux États-Unis car il doit alors attendre 6 mois avant d'y entrer. Donc les frais de transport demandés à Cuba sont très chers, tout comme les sanctions envers les transporteurs qui vont à Cuba. C'est ce qui se passe aussi avec le pétrole vénézuélien. Beaucoup de bateaux sanctionnés par l'Office de contrôle financier ne peuvent pas amener de pétrole à Cuba. Cuba ne peut pas utiliser le code SWIFT des États-Unis, qui est le plus important au monde. Cuba n'est pas un continent où on peut obtenir des produits facilement. Cuba est une petite île qui a besoin de commercer avec le monde et avec des entreprises internationales. Je me rappelle que dans les années 80, Cuba ne pouvait pas vendre de nickel au Japon, car le Japon ne pouvait rien produire à destination des États-Unis avec ce nickel. Il y a une longue histoire de sanctions.
Pour ne rien arranger, en 2021, le gouvernement cubain vote une aventureuse réforme monétaire qui crée une crise d'inflation majeure. Il unifie les deux monnaies existantes, le CUC, dont la valeur était alignée sur celle du dollar, et le CUP, appelé monnaie nationale.
En 1993, Cuba entró en una de las crisis más profundas que se llamaba período especial.
En 1993, Cuba est entré dans une de ses crises les plus profondes, appelée période spéciale, et le dollar était interdit. Mais les familles qui vivaient aux États-Unis voulaient envoyer des dollars à leurs proches. Mais il n'y avait pas de magasin pour recevoir de dollars, et les salaires se payaient en monnaie nationale. L'État a permis d'ouvrir des magasins en dollars. Et à ce moment, le dollar a commencé à circuler comme une monnaie normale. Ça a été comme ça jusqu'en 2004. En 2004, il a été décidé de convertir le dollar en une monnaie appelée CUC. L'État cubain a commencé à émettre des CUC. Il a été supposé qu'il y avait une contrepartie. Pour 10 CUC qui circuleraient, 10 dollars circuleraient. L'État savait donc quelle quantité de CUC il avait émis et donc quel volume de devises il y avait dans le pays. Mais plus de CUC que de dollars ont commencé à être émis. Et à un moment, les gens avaient des CUC, mais il n'y avait pas de produits dans les magasins car l'État n'avait pas de dollars pour acheter. Ils avaient commencé à émettre des CUC sans avoir de dollars pour importer et ça a duré jusqu'en 2021, année de la réforme monétaire. Il a été décidé que le CUC ne circulerait plus.
Pourquoi ont-ils mené cette réforme en 2021, à un moment où Cuba était en plein Covid, avec peu de devises de réserve et dans une situation assez difficile?
Esas son una de las malas decisiones.
Ça a été une mauvaise décision. Cette réforme, il aurait fallu la mener 5 ans auparavant. Ils disaient à cette époque que les conditions n'étaient pas réunies. Ils l'ont fait au pire moment et avec un taux de change de 1 dollar pour 25 pesos. Ils ont fait les comptes en disant qu'à ce taux de change, une pension de retraite serait de 1528 pesos, un salaire moyen de 2100 pesos, car ils ont multiplié le dollar par 25. Mais les pénuries ont fait que le taux de change informel a augmenté. Et ils n'ont pas augmenté les retraites, qui sont restées à 1528 pesos. On est resté coincé en 2021 avec des prix de 2025. Donc les gens sont dans une très mauvaise situation.
Les salaires n'ont pas augmenté depuis 2021 ?
Très peu ont augmenté, dans des secteurs très spécifiques. Par exemple, dans l'éducation et la santé, ils ont augmenté de 3000 pesos. C'est le prix d'un carton d'œufs. L'inflation a différentes causes. Les gens sont payés en monnaie nationale, mais il n'y a pas de produits. La production agricole chute. Si tu ne distribues pas de riz, le prix augmente et passe à 320 pesos. Donc l'inflation vient aussi des pénuries, le fait de ne pas avoir garanti les produits de base subventionnés, de ne pas avoir augmenté la production agricole. Tous ces facteurs ont rendu possible cette haute inflation.
Depuis, pour pouvoir acheter des produits de base, certains Cubains ont fait des queues, leur métier à temps plein. Quand les magasins ouvrent, des dizaines de personnes perdent déjà patience et se disputent. Luis Miguel assiste à ce spectacle, un sourire en coin. Il préfère en rire, il a 38 ans. Son quotidien, c'est d'acheter de la lessive, la revendre, en acheter plus, et se payer à manger avec les bénéfices.
Tous les jours, je dois faire la queue. Tous les jours, car c'est avec ça que je mange. J'achète tous les jours et je revends tous les jours. Je fais mes courses au jour le jour. Jamais pour le mois. Comme vous qui dites, on va remplir le frigo. Ici, c'est au jour le jour. Je t'ai montré comme mon frigo était vide. Je te l'ai montré. Tu as vu ? Il faut le remplir tous les jours. Ici, ils vendent 5 paquets de lessive par personne. Donc, je fais une queue devant chaque magasin pour avoir les 10 ou 20 détergents dont j'ai besoin. Après, je vais les revendre, et ainsi de suite. Je garde 1 ou 2 paquets pour ma consommation.
À combien tu vas les vendre ?
À 350 ou 400 pesos.
Au final, tu ne fais pas tant de bénéfices.
Non, de très petits. C'est pour manger, pas pour m'enrichir. Ça ne me fait pas vivre une vie confortable. Rien de tout ça. C'est pour me nourrir au quotidien. Je te mentirais si je te disais que j'étais riche grâce à ça.
Et tu penses quoi de la dispute qui a éclaté tout à l'heure ?
De l'embrouille. La nécessité pousse les gens à s'engueuler. Tout le monde veut obtenir les produits rapidement pour pouvoir faire une autre queue parce que tout le monde achète pour revendre. Je ne suis pas le seul. Regarde ce sac énorme. Il y a un autre encore plus grand. Regarde ici et ici, partout.
En fin de matinée, Luis Miguel et son groupe d'amis rentrent chez lui et comptent la prise dans le salon. Celle qui se fait appeler la China est plutôt contente.
Aujourd'hui, la journée a été bonne parce que ma copine porte-bonheur a amené sa carte pour pouvoir acheter plus de lessive. Je vends cette lessive pour pouvoir acheter de la nourriture, parce que dans les magasins privés, tout est trop cher.
Dans une entreprise privée, quels sont les prix par exemple ?
Le poulet, 3800 pesos. 5 steaks, 650. La bouteille d'huile, 900 pesos.
Pourquoi il y a autant de queues ?
Parce qu'il y a peu de produits distribués et ils ne le sont pas dans toutes les municipalités. J'ai des amis à Alamar qui viennent ici à La Havane parce que là-bas, il n'y a pas de produits de première nécessité. À 10 octobre, il n'y en a pas non plus. À la campagne, ni de première, ni de seconde, ni de troisième nécessité, il n'y a rien. Dans beaucoup de quartiers marginaux, il y a moins de nourriture et les gens viennent ici pour la chercher. De la campagne, ils rapportent de l'ail, des oignons, des poivrons et des racines pour les vendre à La Havane. Et avec l'argent qu'ils gagnent, ils achètent du détergent, du poulet, de la lessive, de l'huile, car à la campagne, il n'y en a pas.
Les pénuries et l'inflation ont créé un vaste marché informel qui constitue maintenant une grande partie de l'économie cubaine. Au départ de La Havane, il faut prendre un bus jusqu'à la Virgen del Camino, puis l'une des nombreuses petites navettes qui attendent sur le bord de la route pour rejoindre la Cuevita. C'est le cœur de cette économie informelle. Le trottoir est semé d'échoppes de vêtements, de sacs, de câbles, de vaisselle. Les routes des ruelles adjacentes sont défoncées et noires de monde. Puisque la crise a vidé les pharmacies, c'est ici que les Cubains ont le plus de chances de trouver des médicaments. Qu'est-ce que tu fais ici à la Cuevita ?
On vend des médicaments. On ne les achète pas trop cher et on les revend un peu plus pour pouvoir survivre parce qu'ici à Cuba, les choses vont mal, assez mal. Dans les pharmacies, il n'y a pas de médicaments. Comment veux-tu que les gens s'en sortent ?
Dans les pharmacies, il n'y a pas de médicaments.
Il n'y a pas de médicaments. Il y en a plus dans la rue qu'à la pharmacie. Ça fait des mois que c'est comme ça.
D'où viennent ces médicaments que tu vends ?
On les achète ici. Les gens les amènent ici.
Mais d'où ils viennent ? Ils sont importés ?
Ils sont importés. La majorité est importée.
Importés d'où ?
De la République dominicaine, du Portugal, de France. Ceux que je connais viennent de là. Les étrangers, quand ils voyagent ici, en amènent pas mal avec eux. La majorité des produits vendus sur ce marché sont importés.
Et pourquoi vous avez besoin de faire ça, de vendre au marché noir comme ça ?
Parce qu'à Cuba, on galère. Si tu ne vends pas, tu ne manges pas.
C'est un documentaire ? Sur quoi ?
Cuba.
Elle ne filme pas, elle enregistre juste les voix. Viens par là. Qu'est-ce que tu fais ici ?
Moi ? Je vends un peu de tout pour aider ma famille. Il faut se battre pour gagner 500 pesos, ça ne suffit pas pour manger. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
Parle.
En quoi ça consiste, ça ?
C'est un documentaire pour la radio.
Sur quoi ?
Sur Cuba, l'inflation, les prix, la situation.
Ah non, tout est trop cher.
Qu'est-ce que tu fais ici ?
Moi, ici, je vends des médicaments. Mais de quel pays tu es ? D'Italie, non ? De la radio italienne ?
De France.
Et ils comprennent notre langue ?
Je vais tout traduire.
Ah, tu vas traduire. Dis aux gens qu'ici, au marché de San Miguel de la Cuevita, municipalité de La Havane, de San Miguel del Padrón, on maintient tout Cuba. On lutte avec la vie chère pour trouver à manger. Il y a à peu près 7 bateaux arrêtés au large du port et Cuba ne les paye pas depuis près de 3 mois. Il n'y a pas de riz. J'ai 22 ans, je suis religieux, j'ai une femme enceinte et je n'ai pas assez pour vivre. Ce que je fais là, c'est pour laver les vêtements. C'est vraiment dur. C'est Cuba, c'est de la folie. Au final, ce qui va se passer, c'est que tu vas venir, 100 millions de personnes vont venir, on va continuer à vivre la même merde et ça ne va pas changer.
Tu aimerais t'en aller ?
Je vais te parler clairement. J'ai la possibilité de partir parce que la famille de mon père est aux États-Unis. Je suis un jeune gars un peu fou, j'aime profiter de la vie, parce qu'il faut de ça aussi. Je suis jeune et on veut tout ce qu'il fait dans n'importe quel pays du monde. Mais pour l'instant, j'ai des responsabilités. J'ai ma femme enceinte, ma mère seule à la maison, qui est vieille et perd la mémoire. J'ai des responsabilités, mais si on me donne l'occasion, je m'en vais.
Pour qu'il y ait plus d'offres, l'État veut importer. Mais avec peu de touristes, des exportations en déficit et sous embargo, il ne trouve pas les devises pour le faire. Pour en capter, il a ouvert des magasins en dollars et d'autres en monnaie librement convertible, le MLC. C'est une nouvelle monnaie sans billets et sa valeur est presque équivalente à celle du dollar. Le supermarché de Cuatro Caminos est un impressionnant bâtiment blanc construit dans les années 20. Il y a si peu de personnes dedans qu'on dirait un hangar avec son haut plafond et ses allées remplies de nourriture sur des dizaines de mètres. Il y a aussi des aspirateurs, des scooters, des outils, un peu de tout. Ici, on paye en carte MLC. Dans un pays où le salaire moyen est de 4600 pesos, soit 13 euros, les prix sont dissuasifs. On retrouve Luis Miguel.
Un dollar con 20 centavos vale el paquete de spaghetti.
Le paquet de spaghettis vaut 1,20$. La conserve vaut 1,75$. Le dessert 4,50$. Et voilà les prix en MLC. Pour obtenir des MLC, tu dois avoir un membre de ta famille à l'étranger qui les dépose sur ton compte ou tu dois l'acheter dans la rue aux gens qui les vendent. C'est les seules manières d'en avoir. Parce qu'à la banque, ce n'est pas possible de les déposer. Un parent, un ami étranger ou autre doit t'en déposer. Ou alors tu l'achètes par transfert d'argent. Dans les magasins MLC, il y a de tout. Mais tout le monde ne peut pas y aller à cause des prix. J'ai des amis âgés qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ils n'ont personne pour leur envoyer de l'argent. Et ils ne gagnent pas assez pour acheter des MLC. Ils n'ont pas le temps de s'en procurer.
Les devises peinent toujours à entrer. Sans ça, difficile d'acheter du pétrole. Au large des côtes cubaines, il n'est pas rare de voir les pétroliers attendre d'être payés avant de décharger. En attendant, les centrales thermoélectriques ne peuvent pas fonctionner normalement. Les coupures de courant sont quotidiennes.
L'économie est soumise à une forte pression quant au combustible qui affecte la qualité de vie des gens. Comment ça se traduit ? Par de grandes coupures de courant. Le pays a été vraiment éteint parce que le déficit a dépassé les 1000 mégawatts quotidiens, c'est-à-dire 60 à 70% de la consommation de la population cubaine. Je viens de revenir de Cárdenas et il y avait 2 heures d'électricité par jour. Nous avons été informés que le déficit du pays allait atteindre 1700 mégawatts. On parle de 85% de la consommation du pays parce que toutes les centrales thermoélectriques du pays sont cassées ou en maintenance.
Dans les stations essence, le manque d'or noir se fait sentir. On monte à bord de la voiture d'Ariel pendant qu'il fait la queue pour faire le plein. Explique-moi comment on fait pour remplir sa voiture d'essence.
Fonctionne à travers un groupe de Telegram.
Ça fonctionne avec un groupe Telegram que les stations essence ont mis en place, surtout dans le quartier du Velado. Il y a plusieurs stations essence qui ouvrent le groupe aux commentaires pendant seulement 2 minutes par semaine. Et tu dois y noter ta plaque d'immatriculation. Après environ un mois, tu obtiens une place. Par exemple, je me suis inscrit le 20 janvier, on est le 3 mars, et on m'a appelé parce que c'est mon tour.
Tu peux me montrer le groupe ?
Par exemple, on va chercher la convocation d'aujourd'hui. Elle dit, ils sont très agréables. Ils disent, mes amours, bonjour, voici les convocations en ce qui concerne le combustible régulier pour ceux qui se sont inscrits le 20 janvier. Dans mon cas, j'ai le numéro 10660. Il y a un groupe de personnes qui ont dû venir entre 7h30 et 10h30 du matin. Un autre groupe entre 11h et 13h. Dans mon cas, je suis dans le groupe qui devait venir entre 13h30 et 16h. Ils parlent aussi de la convocation spéciale pour les motos, qui a commencé le 10 février. C'était un peu plus rapide.
Et entre 13h30 et 16h, ils ont appelé 100...
Du 10501 au 10679, à peu près 170 voitures. Quand cette station essence n'avait pas cette organisation, la queue partait de là et était longue de 5 ou 6 pâtés de maison. Il y a beaucoup de stations à La Havane où la queue est beaucoup plus longue parce qu'elle fonctionne par ordre d'arrivée. En décembre, j'en ai fait une comme ça. J'ai attendu 23 heures pour faire le plein.
Et tu as fait comment pour attendre 23 heures ?
J'étais dans la queue, et quand tu dois aller déjeuner, dîner ou prendre une douche, tu quittes un moment la queue, tu préviens les voitures derrière que tu vas manger ou prendre une douche et que tu vas revenir. Et 23 heures sont passées. Je suis arrivé à la station à 8h30 du matin. J'ai fait le plein à 7h25 le lendemain.
Il y a aussi les transports en commun. Aux arrêts de bus, l'attente est souvent très longue. À celui de la rue Saint-Lazaro à La Havane, chose normale, une trentaine de personnes patientent sur des bancs bleus face au Malecón, le front de mer. Personne ne sait quand le prochain bus passera. Sandra et Antonio ont 67 et 72 ans, ils en font 10 de plus, et ils attendent, encore et encore, assis sur le rebord du trottoir.
Je prie Dieu pour bien arriver.
Vous attendez depuis longtemps ?
Laisse-moi regarder quelle heure il est. Il est 15h, j'attends depuis 13h. Je suis désespérée, mais qu'est-ce que je peux faire ? Il n'y a pas d'autre option.
On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas de lumière, pas d'espoir, rien. Chaque jour est pire, et pire, et encore pire. La situation s'aggrave, les problèmes s'accumulent, et ça aggrave la vie des Cubains, du peuple, surtout des retraités, qui sont dans la dernière étape de leur vie. Les transports, ça ne va pas. La nourriture, ça ne va pas. Rien ne va ici. Avant, je vivais de mon salaire dans ce pays, jusqu'en 1990. Je ne savais pas ce que c'était revendre, rien de tout ça, jamais. Je vivais de mon salaire, je gagnais 280 pesos et je me sentais comme un roi. Jusqu'en 90, puis la période spéciale est arrivée et la débâcle s'est formée, puis ça a été le Covid. Et la réforme monétaire, je ne sais pas quelle barbarie ils ont fait. Et l'économie s'est disloquée. Ce pays est devenu fou. Je ne comprends pas.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
Pour venir à bout des pénuries et faire diminuer l'inflation, il faudrait que Cuba produise plus, notamment de la nourriture. Mais dans le contexte actuel, c'est compliqué pour les agriculteurs de faire tourner leur exploitation. Dans les montagnes de l'Escambray, au centre du pays, où Che Guevara installa son campement en 1958, Eduardo et sa famille vivent dans une petite maison en bois. Eduardo, la cinquantaine,
a le visage bronzé et bien marqué par le soleil et par le temps. Il me reçoit torse nu, un pantalon rentré dans ses bottes. Une cigarette à la bouche, il se confie sur la vie de Guajiro, le paysan cubain.
Depuis quand vous travaillez ces terres ?
Depuis 30 ans.
Et quelle taille fait l'exploitation ?
7 hectares. 7 hectares.
Que produisez-vous ici ?
Plátano, frijoles, des bananes, des haricots noirs, de l'avocat, du café, des agrumes. Et quelques racines, comme la patate douce. On produit ce qu'on peut parce qu'on fait tout à la main. On n'a pas de tracteur pour préparer la terre. On n'a pas de combustible. On doit transporter la marchandise par traction animale à plus de 15 km. Parfois, la coopérative trouve un peu d'essence, comme aujourd'hui, et on peut emmener les produits jusqu'au village.
Quels effets a le manque de pétrole ?
Le premier effet, c'est qu'on n'a pas de courant. Pas de transport. Et le reste, c'est que ça rend plus difficile le travail de la terre. Voilà, c'est assez difficile.
À une dizaine de minutes à pied, Manuel vit avec ses chèvres, un cheval, des abeilles, au milieu d'arbres fruitiers d'où tombent parfois quelques goyaves. Quand j'arrive, il discute avec sa tante Patricia. Il remplit de miel une vieille bouteille de rhum et me l'offre bien volontiers. Il me tend aussi un café bien sucré en attendant le retour de l'électricité pour pouvoir travailler.
Ici, on plante des bananes, du manioc, des courges, de la pastèque, des légumes. Regarde ici, de l'ail. Des oignons, de la laitue, presque tous les légumes.
Beaucoup de choses.
Tout ce dont je peux trouver les graines, des bananes, des goyaves, presque tous les fruits, des avocats, de tout. Et presque tout ce qui se fait ici se fait avec des bœufs ou un cheval. Ici, il n'y a pas d'essence, rien de tout ça.
Pas de pétrole, tu en as besoin, mais il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas. Ici, j'utilise une turbine électrique, mais il n'y a pas de courant en ce moment.
Quand il y a des coupures d'électricité, ça te rend la tâche plus difficile, n'est-ce pas ?
Oui, j'attends le courant. Si ça arrive d'ici midi, je dois me mettre à arroser avec ce soleil. Parce que le courant vient très brièvement. Si tu n'en profites pas, tu n'arroses pas.
Tu le fais avec cette machine ?
Oui, cette turbine.
La lumière devrait revenir bientôt. Parce qu'elle est partie tôt. À midi, je pense. Et ensuite, à 15h ou 16h, elle va repartir.
La lumière s'en va tous les jours.
Tous les jours. 3 heures avec du courant, 5 heures sans courant, 6 ou 7 heures sans courant.
Et la nuit ?
Pareil, 5 ou 6 heures sans courant, ils te le mettent 3 heures, puis il s'en va 5, 6, 7, 8 heures, ça dépend.
Toujours à cause du manque de pétrole.
Manque de pétrole, manque d'entretien. Oye, azúcar pa ti, mamita.
Pa que lo baile suavecito, así. Cuba, qui fut le premier exportateur de sucre au monde, peine aujourd'hui à en produire pour sa consommation. En tout, 15 centrales participent à la récolte de 2024-2025, contre 36 trois ans plus tôt. En 1959, Cuba comptait 161 centrales qui produisaient 5 millions de tonnes de sucre par an. Dans les années 90, la production chute en même temps que l'URSS, premier client de Cuba. En 2002, Fidel Castro ordonne de réduire la production de moitié pour cultiver d'autres denrées. Depuis, les conditions matérielles obligent à réduire chaque année le nombre de centrales en fonction. Dans la province de Matanzas, la journée commence à 8h à la centrale Jesús Rabi. C'est un grand toit de fer qui abrite des cuves en métal protégées par des tôles vertes et blanches. Des camions déposent les cannes à sucre fraîchement récoltées. En descendant du bus, je croise Juan, la cinquantaine, travailleur de la centrale. Nous parlons autour d'un guarapo, un jus de canne à sucre.
La production de sucre en Cuba,
La production de sucre à Cuba est freinée par la situation de l'industrie canière et de l'industrie mécanique, c'est-à-dire les conditions de travail des centrales. Elles travaillent dur. Les centrales travaillent pour produire la consommation nationale. Mais aujourd'hui, on importe du sucre de différents pays. Les conditions pour faire le sucre destiné à la consommation nationale ne sont pas réunies. C'est très difficile.
Combien de centrales il y avait avant dans la province ?
Avant, ici, il y avait 11 centrales. Il en reste une qui moue le sucre et deux autres, dont une en train d'être démantelée et une autre dans de mauvaises conditions techniques.
En quelle année il y en avait 11
centrales ? Dans les années 90. En 2000, il y avait encore des centrales qui produisaient quand la canne était bonne. À partir de 2005 ou un peu avant, ils ont commencé à détruire les centrales. Et aujourd'hui, il y en a une seule qui moue à Matanzas, au sud de la province, dans la municipalité de Calimet. Nous ne savons pas jusqu'où nous allons arriver avec ce blocus.
Le blocus empêche de faire entrer toutes les pièces pour les centrales sucrières et les centrales thermoélectriques.
Tout ça, c'est en train de nous tuer. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des pays qui voudraient nous aider. Mais les États-Unis augmentent leurs droits de douane, donc ils ne peuvent pas arriver sur nos côtes. Les prix sont impossibles pour ces pays amis qui veulent nous aider. Les années qui viennent, s'ils ne nous enlèvent pas le couteau sous la gorge, et quand je dis ça, il faut savoir que ça fait plus de 54 ans que ça dure. Nous sommes pieds et poings liés. À partir de 2025, je crois que 4 années terribles nous attendent, il me semble. Si nous devons encore affronter tout ça, ici, il sera impossible de faire quoi que ce soit.
Comment vous vous sentez au milieu de tout ça ?
Imagine notre état quand on regarde les nouvelles qui sortent, que le gouvernement des États-Unis veut nous asphyxier. Comment tu crois que le peuple cubain se sent ?
Tout n'est pas perdu. Alors que je réfléchis à tant de crises, au détour d'un café, je rencontre Ricardo, un artiste de 38 ans. On commence naturellement à parler, il me demande ce que je fais là, et puis il m'offre une perspective plus optimiste de son pays.
Una de las cosas que falla es que la búsqueda está ligada.
L'une des choses qui ne va pas, c'est que la recherche est presque toujours liée à ce qui ne marche pas, ne répond pas aux standards de beauté, de mécanismes de production. Quand tu ne trouves pas ces standards, tu penses que c'est mal. Si on ne produit pas de sucre, par exemple, alors que dans les années 50, c'était le cas. On en vient toujours à ce type de discours médiatisé. Il n'y a pas de sucre, ce pays ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'industrie. Je suis d'accord que l'industrie est fondamentale pour le développement d'un pays. Mais il faut faire attention au volume de production. Parce que si on remplissait Cuba d'industrie, on perdrait l'état de bien-être écologique qu'on a. Que se passerait-il si l'extrême droite prenait le pouvoir, par exemple ? Elle industrialiserait pour que Cuba soit rentable. Et quand on parle de rentabilité, on parle de méga-production, d'exploitation de la terre, d'exploitation minérale, laborale, etc.
Dentro de las cosas también que yo veo así como digamos optimista.
Parmi les choses que je vois avec optimisme, c'est qu'au milieu de tant de crises et de pénuries de produits et de services, les gens restent très humains. Ils t'ouvrent encore la porte de leur maison. Cuba est un endroit dans le monde qui accorde beaucoup d'importance aux valeurs humaines, aux interactions humaines et à l'affect. On nous a donné, il y a quelques années, l'opportunité de créer des petites et moyennes entreprises privées. On a rempli Cuba de commerce. On a eu deux opportunités, plus celle des années 2000 quand Raoul est arrivé au pouvoir. Donc trois opportunités en 65 ans. Et on a rempli la ville de commerce. On a amené des informations, des marchandises, des produits. Il y a quelque chose chez le Cubain qui attend de se réveiller. Quelque chose qui est là, qui attend qu'on lui donne une opportunité. Et on le voit tout le temps.
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche laisse présager un durcissement des sanctions envers Cuba que la population subirait de plein fouet. Prise en étau entre les États-Unis, bien décidés à en finir avec le socialisme, et un gouvernement cubain pour le moins crispé, les Cubains et Cubaines sont les premières victimes de cette crise et de ce conflit. Je vous parle du 10e étage d'un immeuble à La Havane dans le quartier du Vedado. Il est 22h08 exactement, nous sommes en pleine coupure de courant, elle a duré 8 heures pour l'instant. Quelques personnes sortent de chez elles pour discuter avec les voisins, mais le quartier est éteint, figé. Pourtant, à ma gauche et au milieu de tant de difficultés, l'immense hôtel de luxe Grand Aston est illuminé de tout son long. Pourquoi ? L'État dit que c'est pour contribuer à faire entrer des devises, mais pour les Cubains, ces explications ne suffisent plus.
Trois mois dans Cuba en crise, c'était un reportage de Maïlys Kider avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous sommes avec la politologue Jeannette Abel. Vous êtes, je le rappelle, chercheuse à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. On vient donc d'avoir un aperçu de l'ampleur de la crise. Je veux bien qu'on revienne un instant sur ces raisons, parce qu'il y a bien sûr cet embargo américain qui pèse sur Cuba depuis 1962. Le gouvernement cubain reporte sur cet embargo l'entière responsabilité de la crise. Est-ce qu'on est capable de mesurer la réalité de son impact ?
Alors, ce qu'on vient d'entendre montre une chose. On est dans une économie de survie.
Tout à fait.
Et dans une crise qui peut être une crise d'effondrement. Bien entendu, les remarques qui ont été faites au début du reportage, confirment une chose. Le pays est victime d'un étranglement financier, commercial, économique depuis 65 ans. Et aucun pays au monde n'a subi un traitement pareil. Je précise pour terminer simplement, c'est une petite île à 200 km des côtes américaines qui a été, après la domination espagnole, sous domination nord-américaine et qui est considérée comme, encore plus avec M. Trump, comme le 51e, devant être le 51e État nord-américain. Alors une fois que ceci est rappelé comme une cause absolument déterminante de la situation, qui s'est évidemment aggravée avec la désintégration de l'Union soviétique, il y a bien sûr ensuite, dans le reportage, des éléments qui interrogent, et qui interrogent quant à la politique économique qui est suivie par le gouvernement actuel.
Donc il y a bien aussi des blocages internes liés oui, à la politique.
Ce qu'on appelle des blocages internes, mais qui renvoie au fait à une stratégie économique qui a été définie en 2011, ça fait presque 15 ans, même on pourrait presque remonter avant, mais en tous les cas, qui est une transition, si vous voulez, d'une certaine façon chaotique, vers une économie de marché, qui n'est l'économie, cette stratégie économique, dans un pays comme Cuba, évidemment, même si elle se rapproche de certains éléments de la Chine et du Vietnam, j'en dirai deux mots par la suite, mais Cuba, c'est pas la Chine et c'est pas le Vietnam. Et c'est un petit pays sans beaucoup de ressources, donc avec des contraintes géopolitiques terribles. Cette politique économique de transition vers une économie de marché se heurte à des difficultés colossales. Alors, difficultés colossales que le gouvernement, après l'effondrement de l'URSS, a tenté de combler en adoptant une priorité, notamment le tourisme. Et ce qui a été un élément au début, qui a permis un certain rebond économique de l'île, bon, d'une part, a été favorisé par le fait que le pétrole que Cuba produit en quantité tout à fait insuffisante par rapport à ses besoins, a été importé du Venezuela à l'époque de Chavez. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout la même situation parce que le Venezuela est aussi sous sanctions et plus d'autres éléments qu'on n'a pas le temps de raconter ici. Mais en tous les cas, le problème de ce qui est décrit dans le reportage du point de vue des coupures de courant, n'oublions pas qu'on est dans un climat tropical, hein, donc tout ce qui est emmagasiné dans les frigidaires, quand vous avez des coupures de courant quotidiennes, c'est la catastrophe, ce qui est expliqué très bien dans le reportage. On voit quelqu'un qui alimente, qui dit qu'il doit remplir son frigo tous les jours.
Et il y a justement l'inflation, les prix qui flambent.
Alors oui, mais quelles sont les causes de ça? Alors le tourisme tel qu'il était a été appliqué, a démarré pas trop mal pendant quelques années, et avec le Covid, il s'est effondré.
Et il n'arrive pas à remonter véritablement aujourd'hui. Ça reste
alors là, et on n'a pas retrouvé du tout aujourd'hui les niveaux justement de tourisme qui étaient ceux qui existaient auparavant. Et en fait,
c'est votre téléphone qui sonne.
Une chose absolument terrible, c'est que s'est ajouté à cet effondrement du tourisme les sanctions qui ont été prises et qui l'ont par Trump dans son précédent mandat et qui n'ont pas été remises en cause par Biden. Il y a aujourd'hui, l'île doit importer du pétrole pour pouvoir alimenter ses centrales thermoélectriques et elle doit importer son alimentation. Ce que dit le reportage à la fin montre très bien ce qui est en train de se passer. Le tourisme ne rapporte plus, et il s'en faut beaucoup, les devises nécessaires. Et par contre, l'agriculture et les investissements dans l'agriculture sont des investissements totalement insuffisants pour assurer l'autosuffisance alimentaire de la population.
C'est ça, le gouvernement a préféré investir dans le tourisme, mais aujourd'hui, voilà. Les
alors,
investissements, c'est ailleurs.
En cause, si vous voulez, premier élément de la crise aujourd'hui, c'est que les investissements qui sont effectués prioritairement dans le tourisme, avec des hôtels qui sont à moitié vides, voire parfois totalement vides. Et ce qu'on entend à la fin du reportage, qui choque beaucoup les Cubains, à juste titre, c'est qu'on a des hôtels de 30 étages qui sont éclairés la nuit, et par contre, des coupures, des apagones, des coupures de courant, et la ville est plongée dans l'obscurité. Et pourquoi ces hôtels sont-ils éclairés? Parce qu'ils ont des générateurs propres. Donc, à part ça, sans ajouter à ça les centrales thermoélectriques qui ont besoin de pétrole pour justement et qui sont
et qui sont dans un état de délabrement,
dans un état technique désastreux. Oui. Alors, je voudrais insister sur une chose. Telle qu'elle est conçue, cette transition vers l'économie de marché qui n'est toujours pas complètement achevée, elle provoque des contradictions politiques et sociales absolument dramatiques. Je comprends pas. Bon. Je m'excuse, j'ai oublié d'éteindre le...
Pas de souci. Donc effectivement, là, il y a des inégalités sociales qui ne font que s'aggraver. Il y a des contrastes de plus en plus flagrants dans un pays qui, justement, a toujours prôné la justice sociale.
Oui, et alors les inégalités, d'où proviennent-elles? Et pourquoi il y a un vrai mécontentement qui s'est exprimé par des manifestations dans la population? Parce qu'il y a également... accompagne cette transition dont j'ai dit qu'elle était chaotique vers l'économie de marché, un secteur privé en plein essor. Le gouvernement a autorisé et ça, ce qu'on appelle MIPIMES, des PME, dirait-on en français, qui peuvent employer jusqu'à 100 salariés. Et ces petites et moyennes entreprises, elles ont un rôle, elles complètent, si vous voulez, les problèmes d'alimentation terribles qu'on a entendus tout à l'heure. Et elles permettent aussi de faciliter la vie quotidienne des gens. Mais elles donnent naissance aussi à des entrepreneurs. La limite, c'est 100 salariés par petite entreprise. Bon, en réalité, c'est plus que ça. Et donc, vous avez parallèlement un peuple, une population qui souffre. Vous avez tout un secteur social qui est en train d'émerger et qui est en train de s'enrichir de manière considérable et une population qui, elle, se paupérise. Et ça, c'est totalement contraire à ce qui a existé auparavant à Cuba et suscite évidemment le mécontentement. Alors, un dernier mot juste pour finir le tableau. Les salaires, le gouvernement a décrété une dollarisation partielle pour cette année. Cette dollarisation partielle fait que les produits accessibles pour l'alimentation, pour les biens quotidiens, etc., sont des produits que vous pouvez avoir, auxquels vous pouvez accéder en dollars ou en euros, en devises en tous les cas. Les salaires, les retraites sont en pesos cubains en réalité. Et donc, avec une inflation entre 25 et 30% et le fait que au marché noir, dans l'économie informelle, un dollar ou un euro, c'est 300 à 350 pesos. Tout simplement, vous comprenez ce qui est en train de se passer, c'est que la dégringolade sociale et la paupérisation des Cubains commence à provoquer des troubles, des manifestations. Il y en a eu une très grande en 2021.
Alors justement, effectivement, c'était des manifestations d'une ampleur inédite en 2021. Il y en a eu d'autres depuis. Mais la répression est très sévère. Le gouvernement ne laisse pas les gens s'exprimer. On n'est pas dans un pays où l'expression est libre.
Oui.
Et ça risque d'être de plus en plus problématique dans un tel contexte.
Oui, alors, bon, ce qui se passe, évidemment, c'est qu'on a un gouvernement qui n'a plus, d'une part, plus du tout la même légitimité que le gouvernement que sous Fidel Castro, et un gouvernement qui a des politiques incohérentes, d'une certaine manière. Il a mis en œuvre une réforme monétaire en 2021 qui a été un échec complet, qui est en partie à l'origine de cette inflation considérable qu'on entend aujourd'hui. Et d'autre part, c'est un gouvernement qui est livré à des contradictions internes. Parce qu'il y a ceux qui sont partisans d'accélérer les réformes et qui considèrent que désormais, il n'y a plus d'autre solution que le retour au capitalisme.
Et qui en profitent peut-être d'ailleurs, qui s'en mettent aussi dans les poches.
Oui, et il y a ceux qui freinent des cas de fer. Ça menacerait en partie leur statut social et politique. Alors, les manifestations ont été au début réprimées parce que le gouvernement l'a mené sur le plan politique, il n'a pas changé grand-chose. Il y a peu d'éléments qui ont modifié la structure politique antérieure, fondée sur un parti communiste cubain qui a le monopole de l'administration et de la structuration générale et de l'appareil d'État du pays. Et maintenant, on a une société très hétérogène, avec évidemment des secteurs qui, eux, cherchent une représentation politique différente et qui sont en désaccord avec ce que fait le gouvernement. Et du côté, un dernier mot, mais du côté de la population, la base sociale de cette population, maintenant, elle est fragilisée. Et comment réagit le gouvernement? D'une certaine façon, de la plus mauvaise façon possible, parce qu'il a réagi à ces manifestations par une répression qui a été sévère. Et la répression, elle s'explique parce que derrière cette transition en cours qui est incohérente par certains aspects, cohérente par d'autres d'ailleurs, derrière cette transition, il y a l'idée qu'il faut sauver le pouvoir politique à tout prix. Et ça, je ne suis pas sûr que dans la population cubaine, ça n'ait aucun écho, parce que c'est Trump, vous avez cité Marco Rubio, et face à cela, la question nationale à Cuba a toujours été une question brûlante. Donc, je ne m'hasarderai à aucun pronostic, mais la situation est terrible.
Et en tout cas, on voit que beaucoup de jeunes cubains s'expatrient. Et oui. C'est effectivement, on peut s'interroger sur l'avenir du pays. Merci Jeannette Abel. 3 mois dans Cuba en crise. Le grand reportage de cette semaine était signé Maïlis Kider et réalisé par Annie Bro. À la technique, Noé Chaban. Documentation, Timothée Fernandez-Lopez et Véronique Le Faller. Au web, Caroline Beneteau. Vous pouvez écouter et partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.